Deuxième partie, Sherlock Holmes entre en scène. Le jour suivant, une rumeur sensationnelle circula au village. Un étranger de haute marque, à l'air grave et imposant, à la tournure très distinguée, venait d'arriver à l'auberge. Il avait inscrit sur le registre le nom magique de Sherlock Holmes. La nouvelle se répandit de hutte en hutte, de bouche en bouche dans la mine. Chacun planta là ses outils pour courir aux vrais renseignements. Un mineur, qui passait par la partie du sud du village, annonça la nouvelle à Pat Riley, dont la concession touchait à celle de Flynn Buckner. Fetlock Jones parut très affecté de cet événement et murmura même « Oh, l'oncle Sherlock, quelle guigne! Il arrive juste au moment où... » Puis il se mit à rêvasser, se disant à lui-même, « Oh, après tout, pourquoi avoir peur de lui? Tous ceux qui le connaissent comme moi savent bien qu'il n'est capable de découvrir un crime qu'autant qu'il a pu préparer son plan à l'avance, classer ses arguments et accumuler ses preuves. Au besoin, il se procure, moyennant finance, un complice de bonne volonté qui exécute le crime point par point comme il l'a prévu. Eh bien, cette fois, Sherlock sera très embarrassé. Il manquera de preuves et n'aura rien pu préparer. Quant à moi, tout est prêt. Je me garderai bien de différer ma vengeance. Ah non, certainement pas. Flynn Buckler quittera ce beau monde cette nuit et pas plus tard, c'est décidé. Puis il réfléchit. L'oncle Sherlock va vouloir ce soir causer avec moi de notre famille. Comment arriverai-je à m'esquiver de lui? Il faut absolument que je sois dans ma cabine vers 8 heures, au moins pour quelques instants. Ce point était embarrassant et le préoccupait fort, mais une minute de réflexion lui donna le moyen de tourner la difficulté. Nous irons nous promener ensemble. Et je le laisserai seul sur la route une seconde, pendant laquelle il ne verra pas ce que je ferai. Le meilleur moyen d'égarer un policier est de le conserver auprès de soi, quand on prépare un coup. Ouais, c'est bien le plus sûr. Je l'emmènerai avec moi. Pendant ce temps, la route était encombrée, aux abords de la taverne, par une foule de gens qui espéraient apercevoir le grand homme. Mais Holmes s'obstinait à rester enfermé dans sa chambre, et ne paraissait pas au plus grand désespoir des curieux. Ferguson, Jan Perker, le forgeron et Hans Sandwich, seuls, eurent plus de chance. Ces fanatiques admirateurs de la ville policier louèrent la pièce de l'auberge qui servait de débarras pour les bagages et qui donnait au-dessus d'un passage étroit sur la chambre de Sherlock Holmes. Ils s'y embarquèrent et pratiquèrent quelques judas dans les persiennes. Les volets de M. Holmes étaient encore fermés, mais il les ouvrit bientôt. Ses espions tressaillirent de joie et d'émotion lorsqu'ils se trouvèrent face à face avec l'homme célèbre qui étonnait le monde par son génie vraiment surnaturel. Il était assis là devant eux, en personne, en chair et en os, bien vivant. Il n'était plus un mythe pour eux, et ils pouvaient presque le toucher en allongeant le bras. « Regarde-moi cette tête !» dit Ferguson d'une voix tremblante d'émotion. « Grand Dieu, quelle physionomie !»« Oh oui !» répondit le forgeron d'un air convaincu. « Vois un peu ses yeux et son nez. Quelle intelligence ! Éveillée physionomie, il a !» « Et cette pâleur, » reprit Hans Sandwich, « qui est la caractéristique de son puissant cerveau et l'image de sa nette pensée. Oh, c'est vrai, hein? Ce que nous prenons pour la pensée n'est souvent qu'un dédale d'idées informes. T'as raison, Wells Fargo, regarde un peu ce pli accusé au milieu de son front, mais c'est le sillon de la pensée, il l'a creusé. » À force de descendre au plus profond des choses. Tiens, je parie qu'en ce moment, il rumine quelque idée dans son cerveau infatigable. Ma foi, oui, on le dirait. Ah, mais regarde donc cet air grave, cette solennité impressionnante. Oh, on dirait que chez lui, l'esprit absorbe le corps. Tu te trompes pas en lui prêtant les facultés d'un pur esprit. Car il est déjà mort 4 fois, c'est un fait avéré. Il est mort 3 fois naturellement et 1 fois accidentellement. J'ai entendu dire qu'il exhale une odeur d'humidité glaciale et qu'il sent le tombeau. On dit même que, chut, tais-toi et observe-le. Le voilà qui encadre son front entre le pouce et l'index. Ah, je parie qu'en ce moment, il est en train de creuser une idée. C'est plus que probable. Oh, et maintenant, il lève les yeux au ciel en caressant sa moustache distraitement. Ah, le voilà debout. Il classe ses arguments, les comptant sur les doigts de sa main gauche avec l'index droit, tu vois? Ah, il touche d'abord l'index gauche, puis le médium, ensuite l'annulaire. Tais-toi! Regarde son air courroucé. Il trouve pas la clé de son dernier argument. Alors il. Oh, voilà le sourire maintenant d'un rire félin. Il compte rapidement sur ses doigts, sans la moindre nervosité. Oh, il est sûr de son affaire. Oh, il tient le bon bout. Cela en a tout l'air. Oh, j'aime autant de pas être celui qui cherche à dépister. Monsieur Holmès s'approcha sa table de la fenêtre, s'assit en tournant le dos aux deux observateurs et se mit à écrire. Les jeunes gens quittèrent leur cachette, allumèrent leur pipe et s'installèrent confortablement pour causer. Ferguson commença avec conviction. Ce n'est pas la peine d'en parler, cet homme est un prodige. Tout en lui le trahit. Ah, t'as jamais mieux parlé, Wells Fargo, répliqua Parker. Quel dommage qu'il n'ait pas été ici hier soir au milieu de nous. Ah, mon Dieu, oui, répliqua Ferguson. Du coup, nous aurions assisté à une séance scientifique, à une exhibition d'intellectualité toute pure, la plus élevée qu'on puisse rêver. Archie est déjà bien étonnant, et nous aurions grand tort de chercher à diminuer son talent, mais la faculté qu'il possède n'est qu'un don visuel. Il a, me semble-t-il, l'acuité de regard de la chouette. C'est un don naturel, un instinct inné, où la science n'entre pas en jeu. Quant au caractère surprenant du don d'Archie, il ne peut être nullement comparé au génie de Sherlock Holmes, pas plus que. Tiens. Laisse-moi te dire ce qu'aurait fait Holmès dans cette circonstance. Il se serait rendu tout bonnement chez les Hogan et aurait simplement regardé autour de lui dans la maison. Un coup d'œil lui suffit pour voir tout jusqu'au moindre détail. En 5 minutes, il en serait plus long que les Hogan en 7 ans. Après sa courte inspection, il se serait assis avec calme et aurait posé des questions à Madame Morgan. Dis donc, imagine-toi que tu es Madame Morgan. Allez, je t'interrogerai et tu me répondras. Entendu, commence. Permettez, Madame, s'il vous plaît, veuillez prêter une grande attention à ce que je vais vous demander. Quel est le sexe de l'enfant? Sexe féminin, votre honneur. Féminin, très bien, très bien. L'âge? 6 ans passés. Jeune, faible, de lieu. Oh, la fatigue a dû se faire sentir. Elle se sera assise, puis endormie. Oh, nous la trouverons au bout de 2 lieues au plus. Combien dedans? 5, votre honneur, et une sixième en train de pousser. Très bien, parfait. Vous voyez, jeunes gens, ils ne laissent passer aucun détail et s'attachent à ceux qui paraissent les plus petites bêtises. Des bas, madame, et des souliers? Oui, votre honneur, les deux. En coton, peut-être, en marocain? Coton, votre honneur, et cuir. Cuir. Ah, ceci complique la question. Cependant, continuons. Nous nous en tirerons. Quelle religion? Catholique, votre honneur. Très bien. Coupez-moi un morceau de la couverture de son lit, je vous prie. Merci. Moitié laine, Et de fabrication étrangère? Oh, très bien. Un morceau de vêtement de l'enfant, s'il vous plaît. Merci. Oh, en coton, mais déjà pas mal usagé. Un excellent indice, celui-ci. Passez-moi, je vous prie, une pelletée de poussière ramassée dans la chambre. Merci, oh grand merci, admirable, admirable. Ah, maintenant, nous tenons le bon bout, je crois. Vous le voyez, jeunes gens, il en met tous les fils et se déclare pleinement satisfait. Après cela, que fera cet homme prodigieux? Il étalera les lambeaux d'étoffe et cette poussière sur la table, et il rapprochera ces objets disparates, les examinera en se parlant à voix basse et en les palpant délicatement. Féminin, 6 ans, 5 dents, plus une sixième qui pousse, catholique, coton, cuir. Ah, que le diable emporte ce cuir! Puis il range le tout, lève les yeux vers le ciel, passe la main dans ses cheveux, la repasse nerveusement en répétant: Oh diable, cuir! Il se lève alors, fronce le sourcil et récapitule ses arguments en comptant sur ses doigts. Il s'arrête à l'annulaire, une minute seulement, puis sa physionomie s'illumine d'un sourire de satisfaction. Il se lève alors, résolu et majestueux, et dit à la foule: Que deux d'entre vous prennent une lanterne et s'en aillent chez Injun Billy pour y chercher l'enfant. Les autres n'ont qu'à rentrer se coucher. Bonne nuit, jeunes gens. Et ce disant, il aurait salué l'assistance d'un air solennel et quitté l'auberge. Voilà sa manière de procéder. Elle est unique dans son genre, scientifique et intelligente. Un quart d'heure lui suffit et il n'a pas besoin de fouiller les buissons et les routes pendant des heures entières au milieu d'une population effarée et tumultueuse. Messieurs, qu'en dites-vous? Avez-vous compris son procédé? Oh, c'est prodigieux, en vérité, répondit Ham Sandwich. Well, Fargo, t'as merveilleusement compris le caractère de cet homme. Ta description vaut celle d'un livre, du livre le mieux fait du monde. Il me semble voir et l'entendre, n'est-ce pas votre avis, messieurs? Ah, c'est notre avis, ce topo descriptif d'Holmes vaut une photographie et une fameuse. Ferguson était ravi de son succès. L'approbation générale de ses camarades le rendait triomphant. Il restait assis tranquille et silencieux pour savourer son bonheur. Il murmura pourtant d'une voix inquiète: C'est à se demander comment Dieu a pu créer un pareil phénomène. Au bout d'un moment, Ham Sandwich répondit: S'il l'a créé, il a dû s'y prendre à plusieurs fois, j'imagine.